Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Vous avez besoin d'un accompagnement financier pour suivre une formation qui vous est nécessaire? Retrouvez toutes les informations utiles sur le site fafcea.com.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
À 10h08 sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi en compagnie aujourd'hui de Marie Martineau, Marion Bartoli, David Douillet. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la première heure de l'émission en podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à picorer, à consommer les GG de cette façon. On s'en félicite. On attaque cette deuxième heure d'émission. Ça va être une deuxième heure très roulante, puisque à 10h30, Charlotte Bravard sera l'invitée des GG. Elle est directrice sportive sur le premier Tour de France féminin de l'histoire qui s'élance demain jusqu'à dimanche prochain et qui se terminera à la super planche des belles filles. Elle sera notre invitée donc à 10h30. Mais pour l'instant, on va débriefer la punchline de la semaine. C'est Thibaut Pinot qui en est l'auteur.
RMC, la punchline GG.
Je suis mauvais, je suis pas bon. Je savais très bien que l'échappée n'était pas partie. Je voulais prendre de l'avance pour basculer avec les meilleurs l'avant-dernier col. Mais ça m'a lâché. Je sentais que mes forces commençaient à faiblir, donc je préférais donner mes dernières forces pour David, mais c'est vraiment frustrant. Je suis tellement loin de mon niveau, j'apporte rien à l'équipe, donc c'est dur.
Souvent devant, jamais gagnant. Thibaut Pinot s'est donc livré, vous venez de l'entendre, à une belle séance d'autoflagellation devant les micros, pourtant toujours aussi nombreux à se tendre devant lui à chaque arrivée d'étape lors de ce Tour de France 2022. C'était mercredi à l'arrivée à Peyragudes, après avoir été à l'attaque dans le col d'Aspin, le coureur français s'est fait rattraper avant de se faire larguer dans la montée finale. Il n'était plus en mesure d'aider David Godu, comme un Van Aert l'a par exemple fait avec son leader Vingegaard. La question se pose donc naturellement. La voici, mes GG. Thibaut Pinot aurait-il dû se consacrer exclusivement à un rôle d'équipier pour son leader? Marie Martineau.
Ah non, je ne pense pas.
Non pour Marie. Marion Bartoli.
Non.
Non pour Marion. David Douillet.
Ben c'est pareil que mes amis. Non.
C'est trois noms, donc vous lui trouvez des circonstances atténuantes. Qui veut commencer? Allez Marie, je te donne la main. Non, il a eu raison de tenter sa chance et d'aller chercher les victoires d'étape.
Alors oui, je pense que de toute façon, le choix de l'avoir laissé en électron libre était le bon choix. La preuve en est, Godu finit 4. Je ne vois pas comment l'aide de Thibaut Pinot en bon soldat aurait pu changer quoi que ce soit et l'aurait fait passer devant Geraint Thomas. On pourrait réécrire l'histoire, mais je crois pas. Je crois que c'était bien pour lui de revenir sur une belle saison et d'arriver sur ce tour avec de l'ambition en montagne et de concentrer ses efforts là-dessus. Et il l'a bien fait. Je veux dire, on était à pas grand-chose que ça se concrétise et que ça finisse par faire. Il devait tenter sa chance en montagne. En tout cas, pour moi, c'était ça qui était dessiné. Je tiens à tirer mon chapeau au collectif de la FDJ. Ça serait difficile aller tirer à boulet rouge sur le choix de Thibaut Pinot, alors que tous les choix de cette équipe ont été, à mon sens, les bons. On est face à un Marc Madiot qui a tiré le meilleur de son équipe avec des cyclistes qui étaient 8 au départ, qui sont toujours 8. C'est quand même très peu d'équipes qui finissent avec tout le monde, avec une équipe qui a brillé au sein du peloton, dans certaines échappées. Voilà, Thibaut, il était là où on l'attendait. Il a fait rêver les Français, là où on avait envie qu'il nous fasse rêver. Voilà, ça ne s'est pas concrétisé. Je trouve dur avec lui-même. En même temps, tous les athlètes ont cette tendance-là à se juger durement. Il prendra du recul et il se rendra compte un peu plus tard que voilà, il manquait pas grand-chose et qu'il est pas nul. Enfin, je crois qu'il finit dans les 15. Donc encore une fois, il y en a 125 qui ont été moins bons que lui sur ce Tour de France. Ça va y arriver.
David Douillet, non, il a eu raison d'aller chercher des victoires parce qu'il s'est pas un petit peu cramé, non, quand même, en étant à l'avant.
Non, mais enfin, il a annoncé au début du tour, comme l'a dit Marie, qu'il était pas en forme, etc. Mais tu sais, quand tu fais une discipline et en particulier le vélo, tu sais pas comment les gens elles tournent réellement tant que t'es pas dedans. Peut-être, on a même vu des coureurs qui au démarrage du tour étaient pas très bons, puis au fur et à mesure des journées, les les premières journées ont quasiment servi de fin de préparation et ils sont devenus excellents les journées passant. Donc voilà, on peut tout imaginer, mais au moins il a le mérite d'essayer. Bon, il a vu qu'il était pas en forme, il a fait ce qu'il a pu. Moi, il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il est trop dur avec lui-même. Voilà, c'est un excellent coureur qui a des qualités monstrueuses. Maintenant, il sait ce qu'il a à faire pour faire un tour digne de ses capacités. Et ça, j'en suis certain. Moi, je suis d'accord avec Marie. Marc Madio a fait un grand tour de France avec son équipe. Là, voilà, ils nous ont régalé. Enfin, je trouve que David Gaudu a été
très bien entouré. Il a été, regarde, ah avec oui. Madouas, Kung, enfin, il y avait du monde autour de lui déjà qui faisait ce job-là. On pouvait se garder la carte montagne avec Pinot, quoi.
Exactement. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une grosse, un gros niveau, quoi. Voilà. Et que dans ce contexte-là, je trouve que la FDJ, elle tient sa place, elle tient son rang. Et c'est pas simple. Hein. Moi, je compare un petit peu, même si les efforts sont évidemment pas les mêmes. Il y a des grosses écuries. C'est un peu comme la F1. Il y a des grosses écuries avec des gros moyens. Il y en a qui sont un petit peu en deçà, etc. Excuse-moi, Simon, de revenir un peu sur l'argent, mais c'est ça qui aussi.
Non, mais c'est vrai, David.
Tu sais, pour un sport pauvre comme moi, je peux me permettre, tu vois.
Bien sûr.
Moi, je trouve que l'ami Pinot, on l'aime bien. On aime bien le voir sur un vélo. On l'aime bien quand il a du panache. Et puis, on le soutient quand il est un peu dans le dur. Et je pense qu'on le reverra sur de grandes journées, des grands jours, des grands tours.
14e effectivement du classement général à plus de 46 minutes tout de même de Jonas Vingegaard. Il avait dit effectivement Thibaut Pinot avant d'arriver sur ce Tour de France. Bon, moi je préfère cette année viser des victoires d'étape parce que faire 4e ou 6e du Tour de France, ça ne m'intéresse plus, avait-il dit. On rappelle que on est en train de dire que David Gaudu, le leader désigné de la Groupama cette saison lors de cette édition, on salue effectivement sa magnifique course. Parce que justement, il va finir quatrième. Marion, toi, tu penses que c'est un tour réussi, même sans victoire d'étape pour Pinot ?
Non, mais après, chacun ses objectifs et chacun ses envies. Thibaut Pinot, aujourd'hui, ça fait un an et demi finalement que Gaudu a gagné sa liberté auprès de lui. Auparavant, ils couraient vraiment systématiquement ensemble. Thibaut Pinot, c'est pas le faire valoir de David Gaudu pour se mettre à sa disposition comme ça pendant tout un Tour de France. Et d'ailleurs, Philippe Mauduit, l'avait déclaré. Pour lui, il y avait vraiment deux co-leaders, Gaudu et Pinot. Et ensuite, à la fin du Tour ou au fil du Tour, on verrait bien qui était leader de cette équipe, un peu comme l'ont fait Ineos. Donc, pour moi, il a eu raison de jouer sa carte à fond. Dans cette équipe de la Groupama FDJ, il y avait d'autres coureurs qui étaient dans la capacité, eux, d'accompagner effectivement les leaders. Il y avait Geniette, il y avait Le Gac, il y avait Paché qui pouvait jouer ce rôle, mais c'était pas le rôle de Thibaut Pinot. Donc, il est quand même passé très proche de la gagne à Châtel, très proche de la gagne à Mende. Il fait un bon Tour de France. Moi, je le trouve extrêmement dur avec lui-même, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. On avait fait un reportage sur lui, sur un petit peu la Pinomania et pourquoi les Français l'aimaient autant, mais c'est aussi parce qu'il est franc et que dans ses doutes et dans ses failles, il est extrêmement transparent. C'est pour ça aussi qu'on l'adore. Après, je pense qu'il faut pas non plus qu'il s'auto-flagelle comme ça à ce point-là. Il a pas été nul du tout. Il a pas du tout servi à rien. Il a fait de très belles étapes. Alors oui, il est pas allé les chercher à la fin, mais pour moi, on pouvait pas se dire qu'il a raté son Tour de France, et qu'il aurait dû se mettre au service de Gaudu. Je rejoins totalement Marie. Je pense pas que Gaudu aurait fini forcément beaucoup plus haut si Pinot s'était mis à son service depuis le début. Je pense qu'une quatrième place, c'est déjà pour lui un résultat exceptionnel. Donc, pour moi, il n'a pas à s'auto-flageller comme ça. Il a fait un très bon Tour de France. Alors, peut-être pas là où peut-être qu'il avait des ambitions encore plus élevées. Peut-être, bien sûr, qu'une victoire d'étape lui aurait fait plaisir. Mais il nous a quand même régalé sur les routes.
La sévérité, effectivement, de Thibaut Pinot envers lui-même, qui a marqué un petit peu les esprits, qui a été tempéré, d'ailleurs, notamment par son frère, qui est entraîneur, et puis, effectivement, par beaucoup de supporters. On va écouter, Marc Madio, le patron, effectivement, de la Groupama. Hein, il ferait une très bonne grande gueule, d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, Marc Madio. Il faudra qu'on en parle à Jean-Christophe Drouet et Pierre Amiche. Marc Madio, qui, évidemment, défend le bilan de son coureur et défend les efforts réalisés par Thibaut Pinot lors de cette édition 2022.
Il manque un cran par rapport à ce qu'il est d'habitude. Il a fait ce qu'il a pu, mais depuis le départ du Tour, il a eu le Covid la semaine avant de partir. Il est un peu comme Stéphane Kung, il est un peu moins que ce qu'il n'aurait pu être. Il a essayé, puis après, il a donné un coup de paluche à David dans la dernière partie de l'ascension. Ce qu'avait fait auparavant Valentin Madouas et les autres toute la journée. On n'avait aucun coureur dans les groupes Eto. On avait tout en haut de l'obisque, on avait tous nos coureurs au plus mal dans le groupe maillot jaune. Donc on avait 6 coureurs dans le groupe maillot jaune et 2 dans l'échappée. Donc c'est pas mal. Pas de regret parce que les 3 devant sont des vainqueurs de grand tour. On est juste derrière, donc c'est bien. On a bien travaillé. Je suis très très satisfait, très fier de mes coureurs.
Et on félicite, nous, à titre personnel, hein, le copain Marc Madiot, le copain de la grande gueule du sport, effectivement, ouais. Son équipe qui réalise un très beau Tour de France. Je vais vous demander, les GG, est-ce qu'il n'est pas, effectivement, vous avez déjà commencé à répondre à cette question, est-ce qu'il n'est pas un peu trop dur avec lui-même, Thibaut Pinot, je me tourne vers toi, Marie. Il a quand même l'air un petit peu au fond du seau, hein, c'est la preuve qu'il se fixait des objectifs plus élevés que ceux qu'il a réussi à atteindre. Comment on fait pour lui faire remonter la pente, pour lui faire voir le verre plutôt à moitié plein?
Oui, alors n'oublions pas qui est Thibaut Pinot et les sorties qu'il nous a déjà fait. Et la psychologie de Thibaut Pinot qui est quand même très particulière. On le disait, c'est pour ça qu'on l'aime, mais quand même, c'est peut-être là où il a encore un peu de boulot. Donc moi, je suis plutôt admirablement surprise par son attitude, sachant qu'il a justement contracté le Covid avant le Tour. C'est quelque chose qui aurait pu le mettre plus bactère psychologiquement, et il s'est quand même accroché, il s'est quand même battu. Oublions pas non plus qu'il aime pas la chaleur, c'était pas de sa faute, et il pouvait pas le savoir avant d'attaquer qu'on allait être en période de canicule, et que forcément que c'est quelque chose qu'il apprécie pas et qu'il le met dans le dur. Donc voilà, il s'est aussi battu avec ça, il ne s'en est jamais plaint. Je trouve qu'on a quand même un Thibaut qui a changé d'attitude, de façon de s'exprimer et de se positionner, en fait. Donc je l'ai trouvé quand même peut-être moins bon, comme l'a dit Marc, physiquement, mais je l'ai trouvé meilleur psychologiquement et plus dans le vrai, m'a-t-il semblé.
David, comment on fait pour sauver le soldat Pinot?
Mais je crois qu'il est en train de se sauver lui-même. Tu sais, quand t'es objectif comme ça avec toi-même, et là il est en train de se regarder dans la glace et de ne pas se mentir, et franchement c'est la meilleure façon qu'on peut avoir pour redémarrer. Il trouve d'excuses à personne, si ce n'est qu'à lui-même, hein. Enfin, pas d'excuses, enfin il est réellement très clair et extrêmement sain dans son analyse, et extrêmement dans le coup, quoi. Il est déjà en train de préparer la suite, en fait, quand il fait ça, quand il dit ça. Il serait en train de se dire, ah ben j'ai eu le Covid, ah ben il faisait trop chaud, justement, comme dit Marie, etc., 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 que là on aurait un Pinot qui serait peut-être un petit peu à côté de ses godasses et qui serait pas tout à fait objectif et qui regarderait pas la vérité en face. Là il la regarde, il l'a dit, il est clair, il est net, il sait exactement ce qu'il a à faire. Pour moi, il est déjà dans le tour d'après et dans la saison d'après.
Marion, tu partages cet avis?
Oui, totalement. Mais après, tu sais, Thibaut Pinot, dans sa communication, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense tout le temps. Donc, à ce moment-là, c'est ce qui lui a traversé l'esprit. Il y avait un micro qui était tendu. Peut-être qu'en discutant avec Marc, qui est quand même très prévenant, on l'entend dans son discours de quasi maintenant après Tour. Il a été très fier de tous ses coureurs et de toute son équipe. Donc, je pense peut-être qu'en discutant aussi avec Marc, qui va le rassurer, peut-être que si aujourd'hui on lui tendait un micro, il aura un discours un tout petit peu plus atténué. Mais là où je suis totalement d'accord avec David, c'est en regardant la vérité telle qu'elle est réellement, sans se trouver d'excuses, que finalement on avance, et on avance beaucoup plus rapidement, et qu'on peut rebondir sur un micro ou mini échec, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est comme ça qu'on avance en tant que sportif. C'est pas systématiquement en disant bah oui mais c'est pas de ma faute parce que. Donc je pense que c'est comme ça qu'il va pouvoir justement rebondir sur les prochaines séances qu'il va se fixer. Je pense d'être dans une équipe avec quelqu'un comme Marc qui va le rassurer, qui va certainement lui redonner le moral aussi, et va le relancer totalement dans un nouveau défi. Ça va beaucoup l'aider, parce qu'on sait très bien que la partie psychologique positive aide énormément à la reprise d'entraînement pour ensuite se relancer d'autres défis et d'autres compétitions. Mais je pense que cette analyse qu'il a à un moment donné, il faut l'avoir. Alors lui, simplement, il le dit. Peut-être que d'autres l'intériorisent et ne le disent pas à la presse, ou en tout cas sont moins durs avec lui-même. Mais c'est la façon dont Thibaut fonctionne. Il a toujours fonctionné comme ça, et on va pas le changer aujourd'hui. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime.
Mais D'accord. Alors, pour d'ailleurs rassurer Thibaut Pinot, hein, qui disait qu'il n'arrive pas à aider son équipe, la Groupama, deuxième du classement par équipe de ce Tour de France, derrière les Britanniques de Ineos. Est-ce que, malgré tout, moi j'entends, hein, c'est très bien, l'acte de contrition, être honnête avec soi-même.
Est-ce que
ça sert vraiment d'exagérer finalement, je sais pas, le problème finalement.
Mais lui, il n'exagère pas, il le ressent comme ça.
Il ressent comme ça.
Au contraire, Marc Madiot dit mais non, il a fait un très bon tour. Vous êtes tous en train de me dire
il est
trop dur avec lui-même.
Il peut pas aller au bout d'une échappée, par exemple. Il se dit si j'avais été vraiment au service du collectif, si j'avais été bon, je vois que je peux pas aller au bout de l'échappée. Je redescends et là je me mets au service de Gaudu pour l'aider. Et il a essayé de le faire et il a pas réussi, il a pas pu, il avait pas ce qu'il faut. Je pense que c'est là-dessus où il se juge durement. Pour le collectif, parce que finalement, en n'étant plus le leader de cette équipe et en n'ayant plus cette charge-là sur les épaules, il s'est quand même certainement dit que, au-delà de ses performances perso, il voulait essayer d'être au service des autres, et notamment de Gaudu, comme on a pu être à son service. C'est un mec qui a l'air tellement entier. Donc, je pense que c'est là où il s'est trouvé nul. Quand il dit je suis nul, j'ai servi à rien. C'est pas pour lui. C'est vraiment pour la team, je crois. Je crois qu'il se juge durement par rapport à ce qu'il aurait aimé fournir pour aider ses copains.
En tout cas, il s'est montré sur ce tour effectivement, et il reste le coureur favori. Hein, j'ai l'impression du public français. Il faudra que tout de même un jour qu'on ouvre le dossier Valentin Madouas, hein, tout de même, parce que effectivement entre David Gaudu et Thibaut Pinot, on aurait tendance à l'oublier. Un troisième coureur FDJ, il est 11e. Valentin Madouas, il a fait un Tour de France absolument remarquable, et c'est vraiment un coureur à suivre pour la suite, parce que lui aussi, il a apporté, je pense, beaucoup de bonheur au public français et beaucoup de fierté à ses patrons. Vous restez bien avec nous, parce que les grandes gueules du sport reviennent dans un instant. On reste sur notre bicyclette, mais version Tour de France féminin, le premier de l'histoire qui s'élance demain alors que les hommes arrivent. Les filles, elles s'en vont pour 8 jours de course direction la super planche des belles filles. On aura une invitée très spéciale. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
10h29, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Marie Martino, Marion Bartoli, David Douillet. Dans un quart d'heure, le retour du zapping. Avec Marion, on parlait tout à l'heure, les nouvelles règles de vie de groupe au camp des loges. C'est évidemment pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Vous allez voir que on a sorti le bâton. Hein, ça, on va arrêter de plaisanter. Des gommettes. Et attention, il va falloir filer droit ou pas. Vous allez voir, parce que on se demande comment c'était avant. Vous nous direz. Est-ce que vous inspire le retour du zapping à 10h45. Mais pour l'instant, à 10h30 dans les grandes gueules, c'est l'heure de l'interrogatoire.
RMC.
Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés.
L'interrogatoire des GG du sport.
Well, listen, let the police do the job. Be sure I give you answer as soon as possible, okay?
Le commissaire Vialès, je crois, immense.
On l'adore.
Immense représentant. On est plutôt cool, nous, hein, dans l'interrogatoire des GG, parce que on continue, je vous le disais, à parler cyclisme. Demain, les hommes arrivent, les femmes s'en vont, figurez-vous, pendant que Jonas Vingegaard lorgnera les Champs-Élysées. Elles seront 144 à rêver de remporter le premier Tour de France féminin de l'histoire, alors que la grande boucle en termine avec sa 109e édition. Tout de même, il n'est jamais trop tard, hein, pour enclencher la marche du progrès. Cette première grande boucle féminine parcourra 1029 km répartis en 8 étapes. Elle s'achèvera à la super planche des belles filles le 31 juillet, soit dimanche prochain, c'est bien, je vois que ça suit, merci.
Une semaine.
Voilà. Alors dans la caravane, on trouvera notamment Charlotte Bravard, championne de France cycliste 2017, désormais directrice sportive pour l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. Elle est l'invitée des GG. Bonjour Charlotte et bienvenue dans l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation, ou d'avoir répondu à notre convocation, c'est selon, mais en tout cas, merci d'être là.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Charlotte, je le disais, première édition du Tour de France féminin, même s'il y a déjà eu des courses qui pouvaient s'y apparenter, c'est la première qui est brandée, hein, si on peut dire comme ça, qui possède l'appellation Tour de France féminin. Ça paraît difficile à croire. Est-ce que cette course, la création de cette course, elle était attendue avec impatience, j'ai presque envie de dire, est-ce qu'elle était réclamée par le peloton féminin?
Ouais, exactement. Ça fait en fait quelques années où voilà les plus grandes championnes réclamaient le retour de cette course. On avait une course qui s'appelait la course by le tour, qui était sur une journée en même temps que les hommes. Mais voilà, c'est vrai que le retour du Tour de France féminin était attendu. Il y a eu même des pétitions pour montrer la motivation. Et enfin, c'est le retour. Donc voilà, toutes les coureurs sont heureuses aujourd'hui.
Alors, les grandes gueules, vous le savez, c'est la tradition. Vous avez tous, on les a fait travailler un petit peu. Charlotte, ils ont tous des questions plus ou moins sympas. Non, en général, elles sont plutôt sympas à vous poser. Marie Martineau, une question pour Charlotte Bravard.
Oui, salut Charlotte. Écoute, j'ai une question toute bête, mais je me mets à la place des gens qui, comme moi, connaissent pas trop le cyclisme féminin. Est-ce que dans ton équipe, comme dans les autres équipes, il y a des types de coureuses, genre des grimpeuses, des sprinteuses, des baroudeuses, comme chez les mecs, ou est-ce que finalement les filles sont un peu plus SUV entre guillemets, voilà, c'est ça ma question.
Ouais, bah c'est vrai que la question est quand même pertinente, parce que c'est vrai que bon, ça reste un peu comme les hommes, voilà, il y a des filles qui sont surtout grimpeuses, d'autres de plus sprinteuses, mais certaines filles ont cette polyvalence aussi de pouvoir faire tout en fait.
Ok, du coup, t'as une leader avec des coéquipières et une leader avec un profil plutôt grimpe ou pas du tout?
Ouais, bah nous, on a une leader qui est Simone Bollard, notre Canadienne de l'équipe. Après, voilà, c'est pas une pure grimpeuse, elle est encore jeune, elle apprend beaucoup, mais voilà, c'est une fille qui est puncheuse, donc voilà, assez grimpée sur les petites bosses et assez à l'esprinter.
C'est vous de Van Aert des filles,
en fait.
Des filles. Charlotte Bravard, championne de France cycliste 2017, désormais directrice sportive pour l'équipe Saint-Michel-Aubert 93, et l'invitée des grandes gueules du sport. Je rappelle que vous serez donc dans la caravane du Tour de France femme. Hein. C'est Tour de France femme, c'est l'appellation officielle, premier du nom, qui s'élance à partir de demain. Marion Bartoli, une question pour Charlotte.
Oui, bonjour Charlotte. Alors, je crois que tu as arrêté ta carrière l'année dernière. Est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur de se dire que pour cette première édition du Tour, bah finalement, plutôt que d'être au départ de la course, tu vas le vivre depuis la voiture. Est-ce que tu regrettes un tout petit peu ou finalement ta carrière maintenant c'est derrière toi et tu te concentres à fond sur ton nouveau rôle?
Non, c'est vrai que bon, c'est sûr que j'aurais bien aimé faire, mais vraiment j'ai tiré une croix sur ma carrière et là franchement je suis juste heureuse que les filles puissent enfin avoir leur Tour de France et mais non, pas forcément de regret plus que ça.
Et est-ce que tu regrettes que ce tour finalement fasse que 8 jours, ou tu penses que c'est adapté aux filles, adapté à leur capacité physique, ou tu aimerais que pour les éditions suivantes, ça soit un tout petit peu plus long?
Ouais, c'est sûr que pour les années futures, voilà, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus long, mais voilà, pour une première, je trouve que 8 jours c'est déjà très bien. Je pense qu'on va vraiment dans le bon sens, donc voilà, ça va venir petit à petit.
Et on rappelle qu'effectivement, les organisateurs ASO ont souhaité effectivement profiter de l'exposition mondiale de la version masculine pour effectivement lancer aujourd'hui cette première édition du Tour femme qui sera diffusée. C'est à saluer évidemment également Charlotte par le diffuseur, par le service public, le diffuseur ordinaire du Tour de France masculin.
J'ai le temps pour une autre question, Simon.
Oui, on va donner juste après. Celle que David Douillet est impatient de poser, j'en suis sûr, mais je te redonne la main juste après Marion. David.
Non, mais Marion, si tu veux la poser, vas-y, je te donne. Vas-y.
Non, je t'en prie.
On pose ta question. Non, vas-y.
Écoute, non, si tu veux, pour revenir sur Charlotte, sur le nombre d'étapes, en fait, c'est vrai qu'il y a un Giro féminin. Il y a 10 étapes, dont 3 en haute montagne et un contre-la-montre. Et aujourd'hui, sur le Tour de France féminin, il n'y a pas de contre-la-montre, il n'y a pas vraiment beaucoup d'étapes de montagne non plus. Donc, je me demandais pourquoi cette différence, en fait.
Ouais, bah c'est sûr, voilà, sur 8 jours, c'est peut-être un peu compliqué de mettre un contre-la-montre, mais vraiment ça reste un premier Tour de France qui, même s'il n'y a pas de la haute montagne, qui reste très dur. Je pense qu'il y aura pas beaucoup d'étapes qui vont arriver au sprint. Il y a des fins d'étapes qui sont très très dures, donc non, franchement, c'est pour moi, je trouve que c'est vraiment un beau tour de France, donc pas déçu en tout cas de ce que ASO a pu peut nous proposer pour cette première édition.
Okay.
Avec cette première étape, on le rappelle aujourd'hui, dans Paris, hein, départ de la Tour Eiffel, arrivée sur les Champs-Élysées. Effectivement, avec 11 passages, je crois, sur la ligne d'arrivée. Marie, rapidement.
Oui, mais du coup, je me demande, comme il y a peu de grimpe, il n'y a pas de maillot vert, il n'y a pas de maillot à pois, il n'y a pas de maillot blanc, ou si c'est exactement comme les garçons?
Ouais, non, c'est exactement pareil. Il y a le maillot jaune, le maillot de meilleur jeune, maillot à pois. Maillot vert aussi.
Ok, il y en a un particulièrement que tu brigues avec ton équipe?
Voilà, on a Simone Boilard qui est dans la catégorie meilleur jeune, donc pourquoi pas aller chercher ce maillot. Et puis voilà, on a aussi le maillot à pois où c'est l'un de nos partenaires, donc à cœur aussi de pouvoir aller chercher.
Charlotte Bravard, directrice sportive pour l'équipe Saint-Michel Aubert 93, qui s'élance avec la caravane du Tour de France femmes aujourd'hui depuis Paris jusqu'à la planche des belles filles dimanche prochain, est notre invitée des GG. David Douillet, une question pour Charlotte.
C'est pas facile de passer après Marion et Marie, hein, parce qu'elles ont posé toutes tes bonnes questions que je voulais poser. D'ailleurs, merci les filles.
Camarades aussi, peut-être.
Je peux t'en glisser une
dedans. Oh la vache. C'est détueuse, les filles. Je suis là, je suis sec, sec comme un coup de trique. Bref, au sens figuré, bien sûr. Moi, ton équipe, Aubert, chez les masculins, elle n'a pas participé au tour.
Si, il y a maintenant plus de 20 ans, la dernière participation.
Voilà, il y a très longtemps. Et toi, tu diriges l'équipe féminine, Aubert, qui va participer au tour. Est-ce que t'es pas un petit peu fier de prendre, entre guillemets, cette petite revanche vis-à-vis des gars?
Oui et non, voilà. Après, de toute façon, c'est vrai qu'on est une équipe qui est, que ce soit les hommes et les femmes, voilà, on se considère quand même comme une famille. Donc, revanche, non, voilà. Je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui accompagner les femmes sur ce premier Tour de France avec moi en voiture, quand même Stéphane Javallet, notre manager.
Moi, j'ai l'impression qu'on va être très frustrés sur ce Tour de France parce que, comme une marque de biscuits chocolatés bien connue, on les aimerait un petit peu plus longs. Est-ce que c'est pas le cas?
Mais là, c'est trop bien parce que d'habitude, il y a un sevrage hyper violent le lundi qui suit la fin du tour. Moi, je suis ravie que lundi, on va pouvoir remettre France Télé et
Je trouve que c'est diffusé, vraiment.
C'est diffusé, on est d'accord.
Ouais.
Alors, je pense que ça va être trop court. Je pense que ça va être trop court. 8 jours, j'ai l'impression que on va rester un peu sur notre faim parce qu'on va se passionner et le petit tour dans l'est de la France, du côté de Strasbourg là-bas, et puis je reviens, ça va nous laisser un peu sur notre faim, j'ai l'impression. T'es pas d'accord avec ça?
Non, voilà. Je pense, comme je disais, faut un début à tout, donc. Voilà, et puis après, on a hâte aussi de voir aussi comment ça va être perçu aussi vis-à-vis du public, parce qu'il n'y aurait jamais autant de jours télévisés, et puis même sur le bord des routes, moi j'ai hâte de voir l'engouement en fait que ça peut prendre le cyclisme féminin, parce que ça fait quelques années que ça commence vraiment à évoluer, et diffusé sur pas mal de chaînes de télévision. Donc, même sur le bord des routes, j'ai vraiment hâte de voir en tout cas que ça peut donner.
Évidemment, n'hésitez pas à aller voir passer les coureuses du Tour de France femmes qui s'élancent donc cet après-midi pour 8 jours de course. On rappelle, hein, on met France TV à la télé, mais sinon on met RMC, hein, c'est encore mieux. Hein,
Valentin Jamin va suivre
évidemment la course chaque jour et vous la faire vivre sur l'antenne de RMC. Merci beaucoup, Charlotte Bravard, d'avoir accepté cette invitation.
Merci à vous.
On vous souhaite beaucoup de réussite à la tête de l'équipe. Merci. Je le rappelle, Saint-Michel-Aubert 93 dans ce Tour de France femmes. C'est bien, vous avez bien travaillé les GG, je vous félicite, c'est du beau travail, c'était un bel interrogatoire. Les auditeurs, vous restez bien avec nous, les grandes gueules du sport reviennent dans un instant. C'est déjà l'heure de chercher où on a mis la zapette. A tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
À 10h45, vous êtes bien sur RMC, c'est le retour des grandes gueules du sport. On est ensemble en direct jusqu'à midi en compagnie aujourd'hui de David Douillet, Marie Martineau, Marion Bartoli. À 11h, on passe la seconde, on se projettera sur ce quart de finale des Bleus à l'Euro de football féminin France-Pays-Bas ce soir à 21h et ce plafond de verre que les joueuses de Corinne Diacre doivent enfin réussir à percer. Les résultats dépendent-ils de la passion? C'est toute la question, mais pour l'instant on s'en fout pas, deuxième version.
Le zapping des GG.
Le retour.
Une info, elle vous intéresse, elle vous intéresse pas. Si elle vous intéresse pas, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Si elle n'intéresse personne, on la zappe et on passe à la suivante. Marion, vous la teasez tout à l'heure. Première info, les nouvelles règles de discipline au camp des loges la saison prochaine pour les joueurs du PSG. On s'en fout pas. Marie Martineau.
Je m'en fous pas.
On s'en fout pas. Marion Bartoli.
Je m'en fous pas.
On s'en fout pas. David Douillet.
David, je m'en fous complètement. Excusez-moi, j'ai pas
compris. On s'en fout complètement.
Je m'en fous complètement.
D'accord. Afin d'améliorer la vie du groupe parisien, le nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a décrété de nouvelles règles. Elles entreront en vigueur lorsque tout ce petit monde sera rentré du Japon. Les arrivées au centre d'entraînement devront désormais s'effectuer entre 8h30 et 8h45. Et les joueurs qui se présenteront en retard et sans motif devant le portail du camp des loges devront rebrousser chemin. Les portables également seront exclus, seront interdits lors des petits déjeuners et des déjeuners pris en commun par les joueurs. Une véritable révolution. Comment les joueurs vont-ils vont-ils faire? Bon, Marion Bartoli, je te donne la main parce qu'effectivement tu sembles avoir un avis bien tranché sur cette question.
Non, mais pourquoi là, c'est... je trouve ça tellement sévère, c'est oh là là, c'est à la limite de se dire que ça va être invivable pour eux, quoi. Pas de téléphone portable pour manger, arriver entre 8h30 et 8h45, c'est-à-dire qu'il faut se lever le matin, ça va être dur, quoi. Les pauvres enfants, j'ai deux doigts d'envoyer une pétition pour dire que c'est des conditions d'entraînement, vraiment, c'est beaucoup trop difficile d'arriver à 8h30 le matin pour s'entraîner. Je pense qu'avec Marie, on a connu les horaires d'entraînement quand même un tout petit peu plus matinales que ça, n'est-ce pas, Marie?
Oui, précise qu'effectivement, l'horaire de début d'entraînement ne change pas, hein. Il est entre 10h et 10h30. C'est juste en fait, les joueurs sont priés d'arriver un petit peu avant pour qu'effectivement il y ait des tranches de vie communes.
Je pense que des motifs de retard, on pourra en trouver quand même.
Ah, évidemment, ça remplira la petite caisse des amendes. Mais c'est vrai qu'on tombe un peu de la chaise, on a l'impression que, effectivement, on se demande un petit peu comment c'était avant. Ah bon, on précise que ces nouvelles règles, c'est Christophe Galtier qui les a édictées. Les sources précisent que c'est évidemment, ça a été validé par Luis Campos, le conseiller football du club parisien. Marie.
Bah, non, mais c'est exactement ce que tu disais. Ça soulève la question de comment ça se passait avant. Et c'est là où je suis surprise. Et très souvent, quand on parle de football, c'est-à-dire, c'est des choses qui pour nous dans les sports individuels sont acquises, mais depuis que tu as 12 ans, c'est ce qu'on t'apprend quand tu as 12 ans, que tu es au comité de Savoie ou que tu n'es même pas encore aux portes de l'équipe de France, où la base déjà c'est arriver à l'heure à l'entraînement, être prêt, respecter le coach, les règles, avoir bien dormi, bien mangé, et puis et savoir pourquoi tu es là, et donc évidemment ne pas avoir ton téléphone portable. Donc c'est très surprenant pour moi d'imaginer qu'il faille qu'un mec comme Galtier l'écrive noir sur blanc et l'impose, et qu'il y en ait qui vont devoir se plier à ces nouvelles règles.
Ça fait vraiment colonie de vacances, en fait.
C'est incroyable. Et en même temps, il était temps, si c'était pas le cas.
La récréation est finie. Mmh. D'accord? Ça fait 5 ans que vous faites n'importe quoi, mais maintenant, c'est terminé. On va taper.
Mais bon,
taper sur les doigts.
C'est la rigueur, mais ça pourrait avoir des
résultats. Je crois qu'on fasse appel à Giroud.
S'ils sont méchants.
Giroud nous manque terriblement.
Oui, attention David, parce que tu vas peut-être il y a des règles également dans cette émission, et tu sais que on n'a pas le droit de s'exprimer sur une info. Non, il faut aller dire ça vous intéresse. Allez, deuxième info de ce zapping, les GG, l'équipe de France qui brille aux Mondiaux d'escrime. On s'en fout pas. Marie Martineau.
Ah, je m'en fous pas, je suis ravie.
S'en fout pas. Marion Bartoli.
Pareil.
Elle est ravie également. David Douillet.
Ah, j'adore.
Ah, les copains du sport olympique, évidemment. C'est une barquette, comme on dit à la belote. Tout le monde en veut. Un quatrième titre, une sixième médaille hier au Caire pour l'équipe de France d'escrime au championnat du monde. Romain Canon, Yannick Borel, Alex Fava, Alexandre Bardonnet ont remporté le titre à l'épée par équipe et conservé ainsi leur titre. Ils ont dominé en finale les Italiens. Victoire 45-42. Il a fallu un petit peu s'arracher, mais les Bleus l'ont fait. Hier également, les filles ont remporté la médaille de bronze au fleuret par équipe. Elles ont battu le Japon. Isaora Tibus, Pauline Ranvier, Anita Blaz et Solène Butruy. Ça va commencer à sentir l'excédent de bagages dans l'avion du retour. David Douillet, pourquoi on s'en fout pas?
Bah, on s'en fout pas parce que l'escrime, je sais pas si vous en souvenez, a eu un creux de vague terrible où il gagne plus rien au championnat du monde, zéro médaille, plus rien aux Jeux Olympiques et ça a été la renaissance lors des derniers Jeux, notamment à Tokyo. Et cette remontée, cette nouvelle génération, ce nouvel élan qu'on a connu au démarrage de Tokyo, bah, elle confirme que c'est une nouvelle génération d'athlètes. L'escrime a su se remettre en question et moi je leur dis, je leur tire mon chapeau, un grand bravo.
Et oui, avec des têtes de file, hein, Enzo Lefort, Romain Cannon, qui confirme déjà, qui conserve leur titre et puis effectivement qui servent de locomotive, évidemment, Marie Martineau.
Ouais, ben Romain Cannon qui ne devait pas aller au jeu et qui finalement deux ans plus tard se retrouve multimédaillé. Moi, j'aimerais qu'on analyse en fait les raisons, si c'est possible de les analyser, d'une telle réussite, de comment est construite cette équipe, de comment fonctionne la Fédé, de comment on gère les jeunes espoirs de toute la pyramide et qu'on puisse essayer de le dupliquer. Il faudrait réussir à en faire une force. Je tire mon chapeau à cette équipe de France d'escrime et à la gestion certainement qui en est faite par la Fédé et dont la volonté de réussir à avoir des résultats dans toutes les disciplines à l'aube de Paris 2024, il serait quand même assez intéressant d'aller voir pourquoi et comment ça fonctionne pour faire une telle razzia et qu'on essaye peut-être de donner quelques petits conseils, je sais pas, par exemple
de qui tu vas parler.
À l'athlée, ouais.
Évidemment. Et bim.
La natation aussi.
L'athlée, on en parle à 11h30, hein, voilà. Les GG sur le terrain, on se demandera avec Aurélien Tiersin qui suit les championnats du monde d'athlétisme, oui, à Eugene pour RMC, où en est cette génération de 2024, on a fait chou blanc pour l'instant, hein, aux mondiaux d'athlétisme. Marion, quelque chose à rajouter très rapidement ou on passe à...
Non, mais très rapidement parce que c'est totalement historique. Hein, 3 titres individuels, ça, ouais, faisait 122 ans que c'était plus arrivé depuis les JO de Paris en 1900. Romain Cannon qui fait le doublé JO mondiaux à l'épée. Encore une fois, une première mondiale depuis plus de 20 ans. C'était un Russe qui l'avait fait la dernière fois entre Sydney au JO et les championnats du monde en 2002. Donc, comme on dit mes compères, effectivement, des records historiques et une discipline qui marche extrêmement bien et essayer de comprendre pourquoi ils arrivent à aussi bien performer, pourquoi pas le dupliquer sur l'athlée en particulier.
Ou le tennis, par exemple. Christophe Cessieux débutait sa jeune carrière de journaliste la dernière fois qu'on avait remporté donc 3 titres mondiaux en individuel en escrime. Dernière info de ce zapping, les GG, une pétition pour que Novak Djokovic dispute l'US Open. On s'en fout pas. Marion Bartoli.
Bah non, je m'en fous pas.
On s'en fout pas. David Douillet.
Ouais, je m'en fous pas.
On s'en fout pas. Marie Martineau.
On s'en fout complètement. Non, je m'en fous pas.
On s'en fout pas. Non vacciné contre le Covid. Le Serbe ne remplit pas les conditions exigées par l'oncle Sam pour entrer sur son territoire. Il ne pourra a priori pas disputer le prochain US Open. C'est à New York du 29 août au 11 septembre prochain. Ah, du coup, les fans du Serbe sont en colère. Ils ont lancé une pétition en ligne afin d'autoriser leur poulain à bénéficier d'une autorisation spéciale. Je cite, à ce stade de la pandémie, dit le texte, il n'y a aucune raison de ne pas autoriser Djokovic à jouer l'US Open. Le gouvernement américain et l'USTA, la Fédération américaine de tennis, doivent travailler main dans la main pour l'autoriser à jouer. Et en lettres capitales, rendez cela possible, USTA. La pétition a récolté plus de 30 000 signatures jusqu'à présent. Marion Bartoli, pourquoi on s'en fout pas ?
On s'en fout pas parce qu'encore une fois, en fait, c'est deux règles différentes. C'est-à-dire que les joueurs américains de nationalité américaine avec le passeport américain ont la possibilité de jouer même en étant non vaccinés. Donc en fait, c'est simplement pour les étrangers non vaccinés qui sont pas autorisés à rentrer sur le sol américain. Donc tu peux pas faire une règle dans un sens et pas pour l'autre en fonction de la nationalité de quelqu'un. En fait, c'est ça qui est en train de choquer tout le monde. Alors après, sur les États-Unis où il y a des lois fédérales et puis des lois propre à chaque état, on peut éventuellement penser, parce que là tout le microcosme du tennis est en train quand même d'énormément pousser pour que Djokovic joue, en particulier quelqu'un comme John McEnroe qui a quand même une influence absolument colossale sur le tennis américain et je pense qu'on peut avoir un petit retournement de situation d'ici l'US Open. En tout cas, Djokovic se prépare comme s'il allait jouer l'US Open. Alors après, on ne sait pas ce que ça va donner à la fin, mais en tout cas, il ne prendra pas le risque comme en Australie de se présenter à la douane américaine s'il n'a pas la certitude cette fois-ci de pouvoir rentrer sur le territoire américain et de jouer.
David Douillet.
Bon, on est dans la rigidité comme d'habitude américaine. Voilà, c'est Marion l'a expliqué. C'est pas possible. On peut pas avoir deux poids deux mesures. C'est injuste. Voilà, c'est tout. Donc, enfin, c'est un ancien député qui vous le dit, trop de lois tue la loi. C'est pas possible. Enfin,
t'as
voilà,
signé
c'est,
la
c'est,
pétition, David, ou pas?
Ben, je vais peut-être le faire, ouais. Non, mais enfin voilà. C'est et au niveau, je suis d'accord avec ce qui est écrit dans cette pétition au stade où elle est, où en est cette pandémie. C'est vrai que les questions se posent aujourd'hui. Je suis pas médecin, je suis pas un chercheur, mais on voit très bien que le virus est en tout cas moins méchant qu'au début, même s'il reste toujours un peu. Mais et voilà, faut s'adapter aux situations. Et à un moment donné, quand les choses changent, il faut que la loi suive rapidement. Et c'est souvent pas le cas. Dans bien des domaines, on commence à changer les lois alors que les choses sont sur le terrain totalement différentes. Et quand la loi a changé, c'est encore différent. Il y a toujours un temps de retard. Et voilà, il faut accorder le rythme de la loi au rythme de la vie. C'est pas si évident, d'ailleurs.
Même si aux États-Unis, hein, on ne découvre pas la sévérité, hein, des conditions d'accès, d'entrée sur le territoire américain. Affaire à suivre. Est-ce que Djokovic pourra donc disputer l'US Open? C'est du 29 août au 11 septembre prochain. Vous restez bien avec nous. On termine la deuxième heure de cette émission. Dans un instant, on va passer la seconde dans les grandes gueules. Cap sur la perfide Albion, où les Bleus de l'équipe de France féminine de foot disputent ce soir le quart de finale de l'Euro face aux Pays-Bas, tenantes du titre. Est-ce qu'elles auraient besoin d'un petit peu plus de passion pour enfin avoir de meilleurs résultats et percer ce plafond de verre? On en parle dans un instant. Vous restez bien avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.